d'abord. Très bien. Merci d'être là. Merci d'être là. Et remercions aussi Barcelone Accueil, parce que cette merveilleuse association dont je suis un membre récent, qui a eu cette idée d'organiser ces balades historiques, parce que nous sommes dans une année spéciale, qui est d'ailleurs Vogue Espagne, fait de Barcelone cette année-ci, c'est magnifique, la ville de l'année, à cause évidemment du centenaire de la mort d'Antoni Gaudí. Donc c'est un événement très important, je crois que peut-être même que le 10 juin, sait-on jamais, le pape Léon XIV qui va venir à la Sagrada Familia célébrer la messe anniversaire de la mort de Gaudí, car il est mort un 10 juin 1926, écrasé, comme vous le savez, malencontreusement par un tramway qui le renverse. Et je vous raconte très vite l'histoire quand même, parce qu'elle est assez émouvante. Il allait à la fin de sa vie, cet homme dont le Vatican est en train de fabriquer un saint pour la ville, il est déjà vénérable de l'Église, c'est-à-dire que le pape François, 10 jours avant sa mort, en a fait un vénérable, première étape avant la béatification. Et après, pour devenir béatifié, il faut un miracle. Canoniser, c'est plus cher, il en faut deux. Mais enfin bon, alors je ne sais pas du tout quelles sont les définitions des miracles par le Vatican actuel. Alors, il se peut qu'il y ait des miracles physiques, c'est-à-dire des guérisons qui interviennent. Paraît-il, par mes connexions avec le monde de l'Église, que déjà le miracle y serait. Alors, on pourrait peut-être espérer que Léon XIV, le 10 juin, vienne célébrer la messe avec dans l'escarcelle un décret de béatification, ce qui serait un sommet et qui vaudrait au moins 10 ou 15 buts de Léo Messi avec le Barça. Largement, largement. Donc, c'est une année, vous le voyez, très, très spéciale et très particulière. Il a été donc renversé par ce tramway. Il vivait très pauvrement. Il se moquait éperdument de la mise, portait des costumes élimés. Son père, qui a vécu avec lui jusqu'à 94 ans, disait toujours, mes enfants, Antoni, tu pourrais quand même changer de costume avec ce que tu gagnes. Eh bien, il s'en foutait complètement. Et il n'avait pas de chaussettes. Depuis la jeunesse, il ne mettait pas de chaussettes parce qu'il avait de l'arthrose. Et donc, ça le serrait. Donc, imaginez ce corps étendu, via de las Corts Catalanas, par terre allongé, avec mal vêtu, avec des vêtements élimés et pas de chaussettes. Il n'avait pas de papier sur lui. Et donc, les gens qui l'ont recueilli ont dit, bah, c'est un pauvre bougre, donc ils l'ont amené à l'hôpital Santa Creu. Les pauvres. Et au bout de 3 jours, parce qu'il n'est pas mort tout de suite, ces assistants de la Sagrada Familia, ils étaient toujours avec eux là-bas, se sont dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et tous les matins, il était là, après la messe. Saint Philippe Neri, il était toujours à la Sagrada. Et il le cherche partout. Et il tombe finalement sur lui, finalement, à l'hôpital. Et là, évidemment, ils disent aux médecins et à tout le monde, vous voyez qui c'est là? Il s'agit d'Antoni Gaudí. Tout le monde se précipite, on cherche la clinique de luxe où l'amener pour essayer de le... Et il dit, il est encore tout vigile, il dit non, laissez-moi, j'ai envie de mourir avec les pauvres. Et il est mort là. Et tout Barcelone a suivi son cercueil. Comme quelques décennies plus tôt, Victor Hugo était suivi par tout Paris, dans les rues de Paris. C'est un symbole pour moi très important, j'ai toujours été un grand amoureux de Victor Hugo, et je suis devenu après, plus récemment, un grand amoureux de Gaudí aussi. Donc je suis très très content, très fier, et je remercie plein de gratitude à Barcelone Accueil, également à Serge Bourgeois qui préside la plus ancienne société de Français sur Barcelone, qui est la bienfaisance française qui remonte à Ferdinand de Lesseps, qui était consul général ici au milieu du 19e siècle. La société de bienfaisance qui s'occupait de tout ce dont il fallait s'occuper en matière de manque, en matière de souffrance de toutes sortes, etc. Donc voilà, ce sont des vieux Barcelonais, tous, Et il y a parmi eux même des vrais Catalans, je suis heureux, mais francophones. Et puis deux amis journalistes, ce monsieur qui est un ami récent, je le connais, j'ai oublié son nom même.
Alain.
Et Moreno. Et Paul Pirou Taranto, qui lui vraiment est devenu un copain, et qui est le rédacteur en chef du Petit Journal. Il y a deux médias ici sur Barcelone, Equinox Magazine, le Petit Journal, et je dois dire que pour une fois, au lieu de s'entretuer, ils me suivent tous les deux. Je les remercie du fond du cœur. Bien, nous allons pouvoir descendre maintenant par là. Cette balade aujourd'hui, c'est sur la Barcelone romaine. Je vous amène dans la nuit des temps. Ne me demandez pas de faire ressusciter les personnes, je n'en suis pas capable. Mais quand on va très loin dans le temps, tout ce qu'on peut faire de mieux, c'est de les évoquer, de voir leurs images surgir, de connaître un petit peu de leur vie. Mais la résurrection roman historique, c'est pas mon truc. Alors, nous allons, je me suis mis en jaune afin que vous puissiez ne pas me perdre. Ça ira bien. Bon, parfait. À la bonne heure. Je suis heureux de cette magnifique escouade aujourd'hui. Vraiment, c'est splendide. Vous savez, nous sommes ici. Venez, approchez, prenez de la peine. Trésor, cachez-le donc. L'histoire est parfois très cocasse. Il y a des circonstances très désagréables dans l'histoire, notamment la guerre civile. Quand des bombes tombent, c'est jamais sympa pour personne. Et Barcelone a beaucoup souffert des bombes de Franco. Et elle a souffert après de ce qui s'est passé par la suite. Et parfois, du mal peut sortir un bien. Et voilà que, en plein milieu de la guerre civile, des bombes tombent. Ils tombent sur ce qui était ici un monastère de Carmes, féminine, de carmélite déchaussée. Et c'est détruit. Et quand la guerre est terminée, et après la Seconde Guerre mondiale, on fait des travaux ici, on détruit les ruines qui restent, et en 50... Ah, un cortado, pardon. Il y a un café qui n'a pas été payé. Non, pas de problème. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il nous voulait. Il m'a foutu une émotion, ce monsieur. Donc, en 55, on rase les ruines qui restent. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre des tombeaux. Ces tombeaux, ce qui s'appelle aujourd'hui la Via Sepulcra Romana, ces tombeaux, les gens se disent, peut-être que ce sont les tombeaux des moniales mortes, parce que le monastère des Carmélites des Chaussées était vieux. Donc peut-être c'est des vieux tombeaux de moniales. Puis ils se rendent compte, en ouvrant, qu'il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de tombeaux du petit peuple de la Rome de Barcino. Barcino, c'était le nom de Barcelone à l'époque. Autrement dit, sûrement, ou des petites gens ou des esclaves. On le sait parce qu'ils avaient, on a vu les ossements, et beaucoup de ces ossements portaient des blessures et des cassures, des fractures. Et des fractures, il y en avait tellement que ce n'était pas des fractures de chute ou des fractures accidentelles, c'était très probablement des fractures issues des mauvais traitements. Ce qui nous apprend encore une fois ce dont nous nous doutions, à savoir qu'il valait mieux être patricien à l'époque qu'esclave. C'était vraiment une condition terrible. Ces gens, ces squelettes, provenaient, étaient des gens jeunes. Autrement dit, ils mouraient très jeunes. Ils ont évalué avec toutes les techniques d'aujourd'hui qu'ils ne devaient guère avoir plus de 25, 28, 30 ans au grand maximum. Hommes et femmes, les deux. Et la vie des esclaves, entre parenthèses, pour moi chrétien, c'est quand même douloureux de le dire, mais même quand la Barcino est devenue chrétienne et que par conséquent l'évangile s'est répandu ici, les pères de l'Église et la loi de l'Église a continué à accepter l'esclavage. Et même un grand des pères de l'Église, Isidore de Séville, pour l'un des plus grands comme saint Augustin, est allé jusqu'à dire que c'est à cause du péché originel. Ce qui voulait dire que le péché originel frappait différemment selon qu'on était esclave ou libre ou riche, ce qui est quand même cocasse. Et donc ça a duré très longtemps, et par la suite, vous savez que l'Église a fermé beaucoup les yeux sur toutes les formules qu'on appelait dans la conquête américaine, les encomiendas, le servage, etc., qui étaient des formes d'esclavagisme également. Je vous en prie, on descend par là. Je ne sais pas si c'est déjà ouvert, mais ça ouvre à 11 heures. Alors, je vais te le dire. Avant Barcelone. Ça, je le ferai à la causerie, je vais le raconter, tout ça. Voilà. Est-ce ouvert ou non? Pas encore? Hein? À la zange? Son assange menus deu. Ah, non, est-ce vous autres que vous? Ah, pas de problème.
6 minutes.
6 minutes, bon, enfin. De toute façon, c'est la même chose qu'on soit dedans ou dehors. Ça, c'est une merveille de découverte. Ce cimetière, donc de petites gens, se situait en dehors des remparts. Barcelone romaine, c'était très petit. C'était 450 mètres du nord au sud et 180 mètres d'ouest à l'est. Donc c'est minuscule. Et là-dedans, il y avait à peu près 5000 habitants, vous imaginez. Un bourg, en quelque sorte. Alors que Tarragone était la capitale de la Tarraconaise, de la province romaine, et elle, c'était 30 000, 35 000 habitants, avec des amphithéâtres, des hippodromes, enfin tout ce qu'il fallait. Barcelone, c'est une sous-préfecture. Donc c'est un miracle que nous ayons pu garder cette galerie de tombeaux, et ça se situait donc en dehors. Et pourquoi en dehors? Parce que la mort à Rome ne faisait pas mariage avec la vie. C'était tabou. On les mettait sur les chemins qui menaient aux portes. Et donc, généralement, on rentrait dans les villes bordées par des cimetières. Et c'était vrai pour les tombeaux, c'était vrai pour les exécutions capitales. Je ne sais pas ceux qui ont, par exemple, vu le film Spartacus, où on crucifie les esclaves révoltés de Capoue jusqu'à Rome. On ne fait jamais d'exécution à l'intérieur de la ville. On reste, les croix bordent toute la Via Appia qui descend jusqu'à l'entrée de Rome, mais on n'y rentre pas. Et là, pareil. Par conséquent, les tombeaux sont à l'extérieur des murailles. Et c'est très curieux parce qu'après, je vous le raconterai, quand les Visigoths sont arrivés et que, par conséquent, l'Empire romain est tombé et que Barcelone ne s'est plus appelé Barcino, mais Barcinona. Ça n'a pas beaucoup changé. À ce moment-là, les Visigoths, eux, les morts, il fallait les mettre dedans. Ce qui fait que tous les reliquats des tombeaux Visigoths que nous avons au musée d'histoire de Barcelone, c'était pris dans des tombeaux à l'intérieur des murailles. Mais entre-temps, entre la Barcino numéro 1 et la Barcinona Visigoth, les murailles avaient un petit peu grossi. Et d'ailleurs maintenant, on va aller devant ce qui nous reste, une partie de ce qui nous reste des murailles de l'époque du IVe siècle, c'est-à-dire de l'époque des invasions barbares, à partir du moment où l'Empire romain décroît. C'était les seconds remparts, et vous allez voir que la peur devait être très forte parce qu'elles sont épaisses. C'est des murailles qui faisaient de 6 à 8 mètres et 12 mètres de hauteur. C'est vous dire à quel point où les machines de siège étaient performantes, où la peur était également, et les deux à la fois, très, très intense. Est-ce que c'est ouvert? Pas encore. Mais de toute façon, je pense que pour des raisons... Oui, qu'est-ce que tu dis?
La caisse sépulcrale, elle ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'elle est très certainement sous l'immeuble, là.
Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr.
C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut imaginer que toute cette partie de la ville est construite sur le cimetière?
Exactement, tout à fait, tout à fait. On n'en a qu'une, évidemment, qu'une partie, parce que sinon, il nous faudrait détruire la moitié du centre de la vieille ville. Et on va le voir encore mieux en allant vers la place Saint-Jaume, parce qu'il faudrait tout détruire pour avoir le forum qui remonte. Mais néanmoins, on peut parfaitement bien imaginer, avec ce qui nous reste au musée d'histoire de Barcelone, où nous ne rentrerons pas parce que c'est une visite de 3 heures, et où on a pu vraiment exhumer une belle partie des entrepôts, des silos, et même de l'église primitive, c'est-à-dire une église qui était plus petite encore qu'une église romane, et qui était la demeure de l'évêque. Autour de l'an 700-800, l'église était devenue très puissante, mais les édifices étaient minuscules. Il y a aussi le palais de l'évêque. L'évêque était devenu, à partir du 7e-8e siècle, la grande autorité de la ville, plus importante même que le pouvoir laïque. Ça, c'est émouvant, parce que ce sont les petites gens. Et généralement, l'histoire n'évoque que les riches, les puissants. Les petits n'ont pas d'histoire pendant très longtemps. Nous, les historiens, on souffrait énormément quand on voulait raconter, par exemple, l'histoire de la pauvreté. Parce que les documents manquaient beaucoup. Et les traces humaines manquaient énormément. On n'avait très peu de choses. On était des aventuriers quand on voulait raconter. Moi, je me rappelle, à une certaine époque, quand j'étais jeune, j'avais fait un mémoire sur les dépôts de mendicité. Les dépôts de mendicité, il n'y avait pas beaucoup de documents. Or, c'était des milliers et des milliers de gens qui vivaient là, qui vivaient, souffraient, mouraient, étaient malades, etc. Ah ben, tenez, si vous voulez faire un petit tour à l'intérieur, ils viennent d'ouvrir. Vous avez la permission de toucher les tombeaux des esclaves, si vous le voulez. Ça porte bonheur. Alors, maintenant qu'il y a, soi-disant, il n'y a plus d'esclaves. Soi-disant. Comment?
Il y a des enfants.
Ah, ça peut être, oui, ça peut être des enfants, ça peut être également différents motifs. Mais ça n'a pas un sens très... ça n'a pas un sens au niveau de la richesse, si tu veux, hein. Il y en a qui sont très bizarres, qui sont restés dans un état avec des formes de tumulus.
Les esclaves étaient quand même enterrés avec des tombes.
Oui, parce qu'il y avait esclaves et esclaves. Ici, il n'y avait pas de gladiateurs. La question que me pose Paul Pierroux est la suivante. Il me dit, très justement, c'est une question, pourquoi donnait-on une sépulture aux esclaves? Ma réponse est que ces esclaves travaillaient dans des maisons patriciennes et que par conséquent, un petit peu comme le furent pendant longtemps les bonnes des maisons, ils faisaient aussi partie de la famille. Simplement, ils n'étaient pas enterrés avec les patrons et avec les riches. Mais néanmoins, ils avaient droit à une sépulture. Il n'y avait pas ici de gladiateurs, il n'y avait pas la caserne de Capoue dont s'enfuit Spartacus, non. Ici, il n'y avait pas d'amphithéâtre, c'était tout petit, Barcino, il n'y avait pas d'hippodrome non plus, donc pas de course de chars, et par conséquent, il n'y avait pas ce que l'on appelle l'esclave-ville, c'est-à-dire la bête de Somme qui va dans l'amphithéâtre du Colisée se massacrer avec des tridents, des épées, Gladiator. Vous avez tous vu Gladiator. Bon, ben voilà. Ce merveilleux film qui nous montre un peu cette curieuse civilisation dont nous procédons, d'ailleurs entre parenthèses, pour une part de notre brutalité également.
Les gladiateurs, ils étaient...
Oui, enfin, ils étaient surtout fêtés au cimetière, parce que il ne durait pas longtemps. L'espérance de vie d'un gladiateur était très faible, étant donné que leur destin était comme pour les taureaux de combat, surtout de mourir avec honneur. Comme on parle les amoureux de la tauromachie aujourd'hui, l'honneur du taureau. Voilà. C'est un peu ça le gladiateur. Oui, il pouvait avoir une vie. N'empêche que rester la macule servile, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment le dessous du panier, même s'ils étaient célèbres. Bien sûr qu'il y avait des célébrités, oui. Bien, on va y aller si vous le voulez bien pour respecter l'horaire. Qui me prend ça? S'il vous plaît, messieurs, dames, respectons l'horaire. On a de la chance, il fait beau.
Ouais, quelle chance.
Hein, quelle chance. Hier, j'étais sous une pluie battante avec un train en panne. Un train en panne entre Gérone et Barcelone. Et j'ai vu le moment où on allait me trimballer en autobus. J'y ai échappé belle. Direction Place à Nova. Vous connaissez tous la Place à Nova, évidemment, la place de la cathédrale. Profitons-en, il fait un peu frais, mais enfin il fait bon.
Moi j'ai fait la Barcelone romaine avec l'école, donc j'ai un niveau B1. Donc c'était un cours d'espagnol. Et mon prof lui avait dit, voilà, nous parlons avec un vocabulaire que tout le monde comprend. Donc c'était une petite visite avec le professeur. Et on a fait la Barcelone romaine en Espagne.
C'est bien, c'est magnifique. Mais je le ferai aux enfants du lycée français, peut-être. Je dois leur faire une conférence au lycée français. Absolument. Absolument. Quand même, cette ville est merveilleuse, non? Hein? Oui, pareil, pareil. Exactement.
La maison la plus étroite.
Exactement. Il n'y a pas de.
Il n'y a pas de touristes.
Et c'est ça qui est bien, c'est que il y a l'hiver comme ça, c'est plus agréable. Et oui. Exactement. Il faut choisir des lieux, par exemple, quand les gens visitent Gaudi à Barcelone, ils vont toujours aux mêmes endroits. C'est-à-dire ils vont à Batlló, ils vont à la Casa Milà et à la Sagrada, évidemment, quand ils peuvent entrer. Mais il y a du Gaudi partout. Il y a même du Gaudi à la Place Real, avec les réverbères. Les réverbères, c'est Gaudi qui les a fait. Donc, c'est des choses... Il faisait même au début des poignées de portes de pharmacie, d'établissements divers, etc. Il commençait comme ça. Il s'intéressait à tout, même aux petites choses. Ça, c'est dommage. À droite. C'est très dommage ça, que on est laissé partir des souvenirs qui sont peut-être pour les muséologues des choses secondaires, mais qui sont très émouvantes parce que Gaudi, il a tout fait. Il était passionné par tous les artisanats, s'intéressait à tout. Et par conséquent, c'est bien de le voir imaginer tout ça. Il était connaisseur de tout, du bois, de la pierre, absolument de la nature. Elle connaissait les arbres par cœur, la faune, la flore. Elle connaissait tout par cœur.
C'est ce personnage.
Tu sais, ça fait très catalan, ça. Mmh. C'est... Ils aiment bien des choses un peu extravagantes comme ça. Ça fait partie du paysage barcelonais, ça. Ça. Ils aiment bien ces machins, oui. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il n'y a pas que du bon goût en Catalogne.
On est dans quel quartier, là?
Hein?
On est dans quel quartier, ici?
Ça, c'est la vieille ville, c'est le commencement, enfin, on est en plein quartier gothique, le Barri gothique. Et que le Barri gothique s'est bâti sur la Rome antique, les barbares, etc. Et la cathédrale, ça n'est que la 8e ou 9e expression de la cathédrale.
Elle est finie, ça y est.
Non, tu confonds avec la Sagrada Familia. Non. Ça, c'est la cathédrale de Barcelone. Voilà, là, on va aller là. Voilà, nous y sommes, vous êtes, j'attends qu'ils se rassemblent. Vous êtes là, à l'entrée, avec ces deux tours que vous voyez. Ce sont deux des 68 tours de la muraille numéro 2. C'est-à-dire la muraille faite au fin 3e, 4e siècle contre le péril barbare. Parce qu'avant, les murailles étaient plus à l'intérieur et elles étaient beaucoup plus fines, parce qu'avant, c'était la paix romaine, la Pax Romana, et les légions faisaient le service d'ordre, et par conséquent, il n'y avait aucune inquiétude, et la vie civile était paisible. Sauf que, à partir du 3e siècle, ça commence, comme l'on dit, à tourner vinaigre. C'est-à-dire que l'Empire lui-même étant devenu beaucoup trop gros, s'est subdivisé en deux, partie orientale, partie occidentale, avec d'un côté Constantinople, Byzance, d'autre côté Rome et Ravenne, ça va être très vite Ravenne d'ailleurs, et par conséquent, les peuples germaniques, comme on les appelle, qui en réalité ne sont pas germaniques, qui viennent plutôt de l'Est. C'est pas des Mongols, c'est pas des Tartares, pas encore, et entre parenthèses, malgré leurs noms, qui sont peu attrayants, les Vandales, les Goths, tous ces gens-là, ils sont beaucoup moins sauvages que les Huns, célèbres pour Paris, Sainte-Geneviève, la menace des Huns et Attila, ou évidemment que les Mongols de Gengis Khan, qui eux, empilaient des têtes partout où ils passaient. Ces barbares-là, qui viennent ici menacer l'Empire romain, ce sont plutôt des barbares attirés par la civilisation romaine, parce que c'était quand même extraordinaire que cette civilisation, elle laissait des édifices somptueux, puis avait le prestige, enfin, de ces légions, de toute cette gloire romaine, cette histoire romaine. Et donc, ils étaient très attirés. Et les premiers barbares qui deviennent romanisés sont précisément ceux qui ensuite vont fabriquer ici un royaume. Ce sont les Visigoths. Les Visigoths, c'est la peuplade des Goths en général. Ils viennent de Roumanie, grosso modo, qu'on appelait avant, sous l'Empire romain, la Dacie. Il y a eu une très belle exposition au Grand Palais à Paris qui s'appelait l'Or des Daces. qui était vraiment une exposition farcie d'or, farcie de richesses inimaginables. Et donc, ils font ici un royaume qui va durer environ 2 siècles et demi. Et puis ensuite, sous la pression de nous, les Francs, c'est-à-dire les braves gens qui faisaient partie de cette tribu aussi germanique, mais plutôt violente, avec un dénommé Clovis, qui ne se contente plus du nord de Paris, l'Île-de-France, mais qui ont tendance à vouloir venir se réchauffer dans le sud, et par conséquent descendront de plus en plus, au point que, non pas tellement sous les Mérovingiens de Clovis, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ceux-là, d'aller inonder la péninsule ibérique, ils sont en tout petit nombre. C'est des petites troupes, vous savez, ce n'est pas des millions, ce n'est pas des armées de centaines de milliers de gens. Et donc, par conséquent, c'est après les Mérovingiens, avec les Carolingiens, c'est-à-dire Charlemagne, que là, vraiment, le nouvel empire qui s'est constitué autour d'Aix-la-Chapelle va descendre par là. Et alors là, les Visigoths, boum, ils prennent la poudre d'escampette et ils vont à Tolède. Se planquer, pour leur destin qui sera un destin fâcheux, parce que d'aller à Tolède, ça veut dire se rapprocher du sud de la péninsule, et se rapprocher du sud de la péninsule à partir de l'an 800, ça veut dire aller au contact des Berbères. Or, les Berbères, c'est la poussée occidentale de la chevauchée musulmane. À partir de l'égire de Mahomet, ils se répandent partout. Il y a eu le califat Omeyyade de Bagdad, et ce califat Omeyyade, ça a été toute la Méditerranée. Et par conséquent, ces pauvres Visigoths, en descendant vers le sud, verront un jour arriver du côté de Gibraltar une troupe de 7000, pas beaucoup, dirigée par un dénommé Tariq, qui va leur flanquer une rouste dans la plaine de Tarifa, en Andalousie. Ça a été le premier pas de l'invasion musulmane de la péninsule ibérique, et en quelques 20 ans, ils vont arriver à Barcelone. Mais c'est une autre histoire. Alors là, vous avez les deux tours reliquataires avec une de ces tours massives qui a utilisé une partie de l'aqueduc romain. Il reste un tout petit morceau de l'aqueduc, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à Barcino, mais ils avaient au moins de l'eau. Il y avait un aqueduc pour trimballer l'eau. Après, tous ceux qui avaient de l'argent ici s'ennuyaient à mourir. Parce que dans la civilisation romaine, si on n'a pas d'amphithéâtre, si on n'a pas d'hippodrome, excusez-moi le terme, on s'emmerde. Donc, à partir de là, ceux qui avaient des sous, qui étaient, je dirais, qui ne travaillaient pas beaucoup parce qu'ils n'avaient pas à travailler, des fils de sénateurs, des fils de nobles, patriciens, ils émigraient vers Tarraco, parce que leur désir, c'était de participer aux courses de quadriges. La folie de l'époque, c'est comme pour Bénure. Vous voyez Bénure, la course de chars, là, où ils se foutent par terre et ils se piétinent, etc. C'était la passion des Romains. La folie du Barça a un ancêtre, les courses de chars. À l'époque, le foot, ça n'existe pas. C'était les courses de chars. C'était plus dangereux que le foot. Mais bon, ils adoraient ça. Ce qui fait qu'il y a une histoire merveilleuse que je vous raconterai d'un certain Lucius Minucius Félix, qui est un fils de sénateur et en même temps un grand escroc. Pourquoi ? Parce que ce type, je vous le dis tout de suite, ce sera fait, ce bonhomme était passionné de chars. Alors, il est allé à Tarragone, à l'hippodrome de Tarragone. Et ces gens-là voulaient bien prendre des risques, mais pas trop. Donc, ils prenaient un esclave qui portait son nom, ils le mettaient à piloter le quadrige, l'esclave, ils recrutaient les meilleurs évidemment, l'esclave gagnait, mais l'honneur retombait sur le propriétaire de l'esclave. Ce qui fait que le dit Lucius Minucius Félix aurait soi-disant gagné la course des Jeux Olympiques d'Olympie en 126 de notre ère, et c'est pas vrai, c'est l'esclave qui a gagné. Et M. Juan Antonio Samaranch, pour lequel j'ai une vénération sans borne. Grand catalan s'il en est, patron des JO de 1992, autrement dit l'un de ceux qui a fabriqué la richesse de cette ville, il nous a trompés quand il a accepté de mettre l'inscription à Montjuïc au pied de la cité olympique, commémorant la victoire à Olympie de Lucius Minucius Félix. Parce que le pauvre, c'est l'esclave qui a gagné, et non pas cet imposteur.